Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola, en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 4, Monaco, dans la zone.
Après être passé devant le casino de Monte-Carlo, les monoplaces plongent dans un double lacet. Long et lent virage à droite, épingle à gauche, puis un double droit les ramenant le long de la Méditerranée. Les amateurs de Formule 1 du monde entier connaissent cette descente par le nom de ces virages. Mirabeau, Loves, Portier. À quelques mètres de là, Ayrton Senna possède un appartement au 15e étage d'un immeuble de béton bordant la mer. L'adresse, 7 avenue Princesse Grace. C'est là que le pilote célébra ses plus grands triomphes. Mais c'est aussi là qu'il trouva refuge lors de ses plus cuisantes défaites. Pierre Van Vliet, est-ce qu'on peut dire que c'est à Monaco que le talent d'Ayrton Senna était le plus évident ?
En tout cas, il avait trouvé un circuit qui est atypique, qui est pas dans la norme. Mais son talent n'était pas dans la norme non plus, donc il jouait de ça. Alors c'est marrant parce que Monaco, il y a bien sûr le Grand Prix de 84 qui est la référence avec sa course sous la pluie, et puis les années Lotus, il vit encore en Grande-Bretagne à cette époque-là, hein, toujours dans la même région, Norwich, puisque le team Lotus est basé dans le même coin. Alors il change, il a une maison un peu plus cossue qu'il partage avec son ami Maurice Gugelmin, un jeune pilote brésilien qui à l'époque court en F3 et puis en F3000, mais il élit quand même domicile à Monaco. À la même époque, en 87, je crois. Et là, il s'installe à Monaco, et donc Monaco devient sa base européenne, en tout cas. Donc, en tout cas, toute la saison européenne. Alors, même s'il n'apprécie pas spécialement la principauté, le côté bling-bling et tout, mais bon, c'est quand même place to be en F1. Et du coup, il connaît par cœur, forcément, le circuit. Et certains pilotes n'aiment pas du tout Monaco, d'autres parviennent à s'y transcender. Hein, Nelson Piquet a cette célèbre phrase, hein, courir en F1 à Monaco, c'est faire du vélo dans sa chambre d'hôtel, quoi, c'est absurde. Et puis il y en a d'autres, comme Alain Prost par exemple, qui, la science de pilotage s'exprime aussi là, comme Graham Hill, comme Jackie Stewart, etc., comme des grands pilotes qui ont inscrit Monaco à leur palmarès. Et Senna va devenir le prince de Monaco assez rapidement.
En 1988, le Brésilien vient de rejoindre McLaren en même temps que son motoriste Honda. Là, il affronte pour la première fois un équipier d'exception, Alain Prost. La troisième course du calendrier est à Monaco et pendant les qualifications, Ayrton Senna effectue une prestation d'anthologie.
Oui, parce que là, ils avaient la meilleure voiture, de loin, un peu comme les Mercedes de la période récente. Cette voiture-là a été aboutie, elle a été soignée jusqu'au bout. C'était la première McLaren Honda, donc il a fallu que le mariage, que l'intégration du moteur dans le châssis se passe bien. Mais chez McLaren, il y avait des ingénieurs extraordinaires. Il y avait Gordon Murray à l'époque, qui n'a pas duré longtemps, en tout cas pour la F1 chez McLaren, mais qui a amené son concept de voiture un peu ultra plate qu'il avait développé chez Brabham et qui arrive à intégrer le moteur Honda dans ce concept. Donc la MP44, la fameuse McLaren de 88, elle est au-dessus du lot à un point tel que Prost et Senna sont seuls au monde. Le troisième finit un tour, quoi. Hein. C'est souvent mon copain Boutsen avec la Benetton. Mais voilà, ils sont à des années-lumière. Les Ferrari sont nulle part, vraiment. Donc, c'est entre Prost et Senna. C'est vraiment un face-à-face, un duel, mais fratricide, puisqu'ils sont dans la même équipe. Et à Monaco, Alain, c'est le patron, quoi. Hein, il a gagné plusieurs fois à Monaco. Puis chez McLaren, il est vraiment chez lui. Il est le leader jusque-là incontesté. Mais la saison 88 va quand même démontrer que la cohabitation, même si elle se passe plus ou moins bien, elle tourne un peu à l'avantage de Senna avec Honda. Et la démonstration de Monaco est un premier signe de ça. C'est vrai que son tour en qualif, voilà, est exceptionnel. Et qu'il est allé chercher... Alors, il raconte lui-même qu'il est allé dans une zone quand même très improbable où il prétend qu'il est sorti même d'une zone de conscience. Je me souviens de l'interview qu'on a faite après la qualif, chez lui, au Houston Palace, dans son appartement, avec Gilles Pernet, qui était à l'équipe à l'époque, et moi à TF1, je me souviens qu'on a fait ça ensemble, sur la terrasse. Là. Et Ayrton lui-même n'en revenait pas. Il nous parlait d'un état second. Alors bon, chez McLaren, on était un peu perplexe, ou Alain, par exemple, qui est quand même un pragmatique. Enfin bon, Alain était à une seconde et demie, ou à deux secondes, une seconde huit, je crois. Mais Alain, en même temps, se rendait compte qu'en qualif, il n'allait pas arriver à se mesurer vraiment à Senna, et que le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc Alain, il préparait son coup pour le lendemain, et généralement, ça marchait très bien. Mais cette espèce d'état de grâce ou d'état second était quand même très interpellant, et Ayrton en parlait avec une forme de magnétisme comme ça qui était étrange. Et je me souviens avoir évoqué ça avec Bernard Caillé, le légendaire photographe des Grands Prix à l'époque, qui m'avait parlé de Juan Manuel Fangio au Grand Prix d'Allemagne 57, où Bernard raconte qu'il est allé dans la chambre d'hôtel chercher Fangio, le maestro, pour la remise des prix parce qu'il n'y arrivait pas. Et il avait trouvé Fangio sur son lit d'hôtel, complètement vidé par... Voilà, il s'était transcendé, il avait été vraiment dans ses derniers retranchements pour la fameuse course où il rattrape les deux Ferrari et où il gagne, qui est son sa cerise sur le gâteau, c'est son cinquième titre de champion du monde, etc. Et Caillé me dit, mais cette zone, cette espèce d'état second, eh bien, il n'y a que les immenses champions qui peuvent parfois s'en approcher, et ce jour-là, c'est le cas d'Ayrton Senna.
Le lendemain, Ayrton Senna domine le Grand Prix, comptant plus de 40 secondes d'avance sur son équipier Alain Prost. Et au 67e tour, la monoplace blanche et rouge arrive un peu trop vite dans le virage du portier et s'écrase dans le rail de sécurité.
Oui, alors là, c'est une espèce de leçon d'humilité, quoi. Et Ayrton en avait parfois un peu besoin, pour être tout à fait honnête, parce qu'il avait un côté parfois un peu de diva. Et il était tellement sûr de lui, tellement conscient de son talent, que il pensait que ça ne pouvait pas lui arriver. Et bon, la course passe, les deux McLaren sont en première ligne, mais Alain se loupe un peu au départ, en tout cas il est du mauvais côté de la piste, et c'est Berger qui prend la deuxième place. Donc Alain se retrouve bloqué derrière Berger pendant 40 tours, et donc Ayrton le remet une seconde au tour. Donc effectivement, en fin de course, il a course gagnée, quoi. Il peut contrôler facilement, etc. Et au moment où Ron Dennis lui dit « Assure, fais pas le con », etc. à la radio, en fait Alain vient de passer Berger, et Alain bat le record du tour, et bon, sur les panneaux, Ayrton voit que c'est plus 40 secondes d'avance, mais 38, et ça veut dire que le small, le Frenchman, comme il dit, est passé et sonne la charge. Mais il reste 12 ou 15 tours, donc il n'y a aucune raison de s'affoler, d'où le message de Ron Dennis. Et il semblerait qu'Ayrton a un côté, voilà, il se déconcentre plus que... Il ne va pas trop vite dans le portier. Il est distrait, oui, voilà. Il assure peut-être trop. Enfin, voilà, c'est juste le fait qu'on est moins... moins appliqué, moins concentré, qu'on se dit, allez, c'est bon. Et voilà, il y a un moment de relâchement. Et il se prend bêtement la petite bordure à la corde au portier et il tire tout droit dans le rail en face, quoi. Alors là... Grosjean comme devant, il est vraiment penaud, il sort de l'auto, mais il est fou de rage. On se souvient de l'image, les commissaires interviennent, ils les rejettent, et ils jettent ses boules qui restent par terre, il arrache sa cagoule, et il disparaît parce qu'il y a une petite porte juste au coin du virage du portier, là, et il est à 100 mètres de chez lui, même pas, à 80 mètres peut-être du Houston Palace, c'est l'entrée de l'avenue des Princes. Et plutôt que de retourner au stand ou de ce qui à Monaco est compliqué parce que le long du pôle, le long de la mer, c'est l'enfer. Et lui, il rentre chez lui. Il rentre chez lui et il se barricade chez lui tellement il est honteux, tellement il est furieux, en colère sur lui-même. Alors bon, téléphone sonne, enfin le team, McLaren, Ron, Joe Ramirez, tout le monde s'y met. Je me souviens qu'on était en salle de presse. Bon, j'essaye. Lionel Froissart essaye. Ça décroche pas. Et puis finalement, mais tard dans la soirée, genre 22h, c'est pas lui qui décroche, c'est la femme de ménage portugaise qui s'occupait de lui et de l'appartement, et qui bossait pas le week-end normalement. Alors bon, c'était le grand week-end du Grand Prix, donc elle s'occupait quand même de lui, et elle venait, mais elle était pas là pendant cette journée-là. Donc elle arrive dans la soirée, hein, pour prendre son service le lendemain matin, j'imagine. Et puis, elle se rend compte qu'Ayrton est là, il est prostré, il est refermé sur lui-même. Et il paraît qu'il n'avait même pas encore enlevé sa combinaison. Enfin, il était, il était complètement défait.
À ce moment, il y a un chapitre intéressant de la vie d'Ayrton Senna qui s'ouvre, c'est qu'il commence à évoquer publiquement sa foi.
Oui, alors, il l'évoque de façon, je dirais, un peu indirecte, hein. Il ne justifie pas quoi que ce soit par sa foi, mais il explique quand même que ça l'aide, hein, que sa croyance, que ça l'aide dans son métier, dans son challenge personnel. Alors, je sais que, vu d'ici, on pouvait être choqué, par exemple, qu'Alain, quand il disait le gars, il rentre dans sa zone là, d'état de grâce ou d'état second, et puis de toute façon, c'est le bon Dieu qui vient à son secours, ça fait peur, quoi. Donc Alain jouait un peu de ça aussi dans la guerre psychologique, hein, qui les opposait déjà. Donc Alain, il met plutôt le doigt où ça fait mal, ou en tout cas il souligne, il insiste sur ce côté pas très cartésien, on va dire. Mais quand on connaît le Brésil et les Brésiliens, le rapport à la religion ou à Dieu est complètement différent, enfin très éloigné de la manière dont en Europe l'éducation judéo-chrétienne s'exprime. Au Brésil, Dieu fait partie de la vie de tous les jours, Dieu est un ami, quoi. On s'adresse à lui, c'est une référence, et la religion, c'est une fête. 98% de la population est catholique, donc tout ça fait partie d'un inconscient collectif, ou en tout cas d'une culture. Alors aujourd'hui, ça a pris des formes malheureusement un peu excessives, ou un peu intégristes avec les évangélistes, etc. Au Brésil, ça fait peur, hein, ce qui arrive aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était pas encore vraiment le cas, même s'il y avait quelques illuminés. Notre ami Alex Ribeiro, hein, qui courait en F1 avec une congrégation improbable qui finançait sa saison de F1 pour sauver Jésus. Mais bon, Ayrton n'était pas du tout à ce point-là. Simplement, pour lui, c'était important, parce qu'il y a cette éducation, y compris dans le contexte familial, hein, c'est un peu des grenouilles de bénitier, les Sénats, et Ayrton, pour lui, c'était important. Mais quand il en parlait, et quand il a commencé à en parler, parce que c'est par la suite que parfois il en a fait un peu un cheval de bataille, mais il justifiait parfois un peu ses certitudes, en se reposant là-dessus. Mais le fait qu'Alain, par exemple, s'inquiète que soi-disant Senna se croit au-dessus des lois de la physique parce que le bon Dieu veille sur lui, c'est excessif.